Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Serge de Diaghilev, 1872-1929. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi, sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Igor Stravinsky. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était impresario, entrepreneur, créateur et ami fidèle, Serge de Diaghilev. Diaghilev est un homme en smoking, à croire qu'il ne porte que ça. À croire qu'il passe ses soirées à des premières, des concerts et des ballets. C'est un homme imposant, mais qui sait porter le nœud papillon et le col à mi-donné. Il arbore une canne du dernier chic et souvent un haut de forme, noir, impeccable et luisant. Il semble souvent en voyage ou en tournée sur des bateaux, accoudé à des bastingages devant des trains de luxe ou de belles voitures. C'est une sorte d'Hercule Poirot, un frileux en col de fourrure qui soigne sa fine moustache. C'est un homme du monde qui pose avec Nijinsky, Prokofiev ou Stravinsky. Il est souriant, mais blasé, à moins qu'il ne soit fatigué de cette vie d'oiseau de nuit. Mais surtout, il a une mèche de cheveux prématurément blanchie qui donne à sa physionomie quelque chose d'étrange et de contrasté. Écoutons Serge de Diaghilev dans un documentaire de Christian Giudicelli, réalisé par Viviane Noël.
C'est par Diaghilev que la révolution culturelle, théâtrale et chorégraphique en Occident et dans le monde était proclamée. Pourquoi ? Parce qu'il a touché la dramaturgie, la musique, la peinture, la lumière par éclairage, la chorégraphie. Naturellement, les critiques chorégraphiques étaient nées. Et avec tout cela, il a touché la jeunesse et les masses. Et j'ai entendu qu'on a dit qu'il était animateur et les charmeurs, bien entendu. Mais surtout, il faut dire qu'il était inspirateur à la création. Et c'est lui, par cette révolution culturelle, qui a révélé justement les plus grands créateurs de notre temps. Si vous prenez la musique, n'est-ce pas, la création au ballet russe, les œuvres de Stravinsky et de Prokofiev sont immortelles. Et en même temps, les Français tels que Debussy, Ravel, Schmitt, Millau, Auric, Sauguet, ils ont tous collaboré au ballet russe.
Les ballets russes de Diaghilev, 20 ans d'extraordinaires spectacles entre 1909 et 1929. Serge Liffard, le dernier grand danseur de la compagnie, nous le rappelait. Retenons avec Liffard cette idée de révolution culturelle et citons à l'appui quelques-uns des grands ballets qui firent de Paris la capitale des arts. 1910, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, Décor de Bakst, L'Oiseau de Feu de Stravinsky. 1911, Petrouchka de Stravinsky, Décor de Benoît, Chorégraphie de Fokine. 1912, L'Après-midi d'un faune de Debussy avec Nijinsky, Daphnis et Chloé de Ravel, Décor de Bakst. 1913, Jeu de Debussy, Le Sacre du Printemps de Stravinsky, Décor de Rurik, Chorégraphie de Nijinsky. 1917, Parade d'Éric Satie sur un argument de Jean Cocteau, Décor de Picasso, chorégraphie de Massine. 1919, Le Tricorne de Manuel de Falla, décor de Picasso. 1920, Le Chant du Rossignol de Stravinsky, décor de Matisse. 1923, Noces de Stravinsky, décor de Goncharova. 1924, Les Biches de Poulenc, décor de Marie-Laurencin. 1929, Le Fils Prodigue de Prokofiev, décor de Rouault, chorégraphie de Balanchine. Serge de Diaghilev était l'impresario, l'organisateur qui tenait entre ses mains le destin de ses ballets et celui des artistes qu'il avait le génie de rassembler. Né en 1872 à Saint-Pétersbourg, il était d'une famille noble. Très jeune, grâce surtout à son ami Alexandre Benoît, il s'intéressa à la peinture et créa en 1899 la revue Le Monde de l'Art. Il voyagea, s'occupa de musique, voulut faire connaître à toute l'Europe les peintres et les compositeurs de son pays. Sa voie était tracée, dont il ne s'éloigna jamais, susciter l'éclosion de talents qui s'inscriraient définitivement dans notre mémoire. Un jour, le roi Alphonse XIII l'apostropha. « Mais dites-moi, monsieur de Diaghilev, vous n'êtes ni chef d'orchestre, ni danseur, ni pianiste. Que faites-vous ?» Et Diaghilev répondit « Majesté, je suis comme vous. Je ne travaille pas, je ne fais rien, mais je suis indispensable. » Indispensable, à coup sûr, il le fut. Et génial à sa manière, qui ne ressemble à aucune autre. Celle d'un magicien qui veillerait à tout de la coulisse, un deus ex machina grâce auquel la scène s'illumine. Il y a une musique, un décor, des danseurs. Il y a dans le public un jeune homme qui regarde, fasciné.
Enfin, comme si j'avais été ému par une impression divine, par Apollon lui-même, j'ai eu l'idée de prendre un billet pour l'un des spectacles des ballets de Diaghilev en mai 1929. J'assistais à la création du Fils prodigue de Prokofiev avec une chorégraphie du jeune Balanchine et les décors qui me firent sortir les yeux de la tête, signés d'un peintre inconnu de moi, Georges Rouault. J'ai vu aussi ce soir-là le pas de deux du lac des Cygnes, le pas de deux du second acte, dansé de façon qu'on n'oublie pas par Serge Liffard dans tout l'éclat de sa beauté et par Spetsitzeva, la plus grande ballerine du siècle après Pavlova. Ma passion pour le ballet romantique est née ce soir-là.
Marcel Schneider, vous venez de nous lire un passage de vos mémoires, L'éternité fragile, qui est paru chez Grasset, 3 volumes, mais là c'est le premier, ce sont vos premières impressions justement, et là c'est des impressions de tout jeune homme, je dirais presque d'un adolescent, d'un enfant, qui assiste pour la première fois au ballet russe, et qui en conserve visiblement, bien des années après, un éblouissement.
Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 16 ans, et... Ma famille n'appartenait pas du tout au milieu littéraire ou artistique. C'est grâce aux journaux, aux nouvelles littéraires, à Comédia et à la rumeur, si vous voulez, que je me suis dit, il faut que je voie les ballets russes. Et Boris Kokhno, qui a été le secrétaire général des ballets et l'ami de Diaghilev, raconte dans son livre sur les ballets que justement, cette saison 1929 a été la première où le grand public, dont moi par conséquent, où le grand public, et non pas seulement les habitués du tout Paris et du monde élégant, est venu voir les ballets russes.
En même temps, c'est un peu triste parce que c'était la fin aussi.
Alors, on ne pouvait pas le savoir. À ce moment-là, on ne le savait pas.
Mais justement, le miracle des ballets russes tient à cet assemblage assez génial que Diaghilev avait réussi, c'est-à-dire de mettre un grand musicien, évidemment Stravinsky d'abord, mais aussi Debussy et Ravel et bien d'autres, et Auric et Poulenc et d'autres plus jeunes à l'époque, et de les mettre avec de grands décorateurs comme d'abord Bakst et Benoît, ensuite de faire appel à des créateurs plus modernes comme Picasso, Matisse et Rouault, et aussi de grands chorégraphes qu'il formait lui-même, et c'est également de grands danseurs. Donc c'était l'idée d'un spectacle total, en fait.
Voilà, c'est un spectacle total, et c'était la synthèse des arts. N'est-ce pas ? Il faut penser que le ballet romantique a été créé à Paris, avec la Sylphide en 1832, avec Maria Taglioni et Gisèle. Mais après 1865, après l'époque de Delib et Coppelia, le ballet en France comme en Italie a commencé à décliner. Et pourquoi ? Parce que la danseuse étoile a pris une proportion telle que c'est elle qui accaparait tout l'intérêt du public, au point que les hommes n'étaient là que pour servir de porteurs, ou bien même on donnait les rôles masculins à des danseuses en travesti. Alors, de 1875 à peu près, jusqu'en 1910, ça a été le règne de la danseuse. Mais en même temps, l'amenuisement du ballet et de la chorégraphie, n'est-ce pas ? Et tout s'est porté en Russie avec Tchaïkovski et Marius Petipa. Et alors, l'esthétique des ballets en Russie était extrêmement différente. D'abord parce que c'était le peintre, et non pas le chorégraphe, qui était le maître d'œuvre.
Presque le metteur en scène, on dirait aujourd'hui.
Presque le metteur en scène. Benoît le raconte très bien dans ses souvenirs, ou Bakst, ou Röhrich, ou, tous ceux qui ont contribué au premier ballet russe. C'était le peintre décorateur qui avait la main haute sur l'ensemble du spectacle. Le public a été absolument bouleversé. Ce qui a fasciné le public à l'époque, ça a été ce qu'on appelait l'orgie des couleurs,
n'est-ce pas ? Ça, c'est le côté Bakst, en fait.
Le côté Bakst, oui, Bakst. Alexandre Benoît avait moins de couleurs, mais Bakst, c'est éblouissant. Donc, l'orgie des couleurs. Ensuite, l'animation perpétuelle du corps de ballet. Alors qu'à Paris, jusqu'alors, la danseuse étoile Zambelli se mettait devant, et puis le corps de ballet restait derrière. C'est ce que Zambelli, d'ailleurs, appelait la province. Vous êtes bon pour la province, disait-elle. Tandis que dans les ballets russes, songez à Petrouchka, n'est-ce pas, ça bouge tout le temps. Et ça a fasciné le public. Ensuite, il y a encore une autre raison, c'est que, je vous ai dit, en France comme en Italie, il n'y avait que les danseuses qui comptaient. Les ballets russes ont redonné aux danseurs masculins, le premier rôle, mais un rôle aussi important que pour les danseuses. C'est-à-dire qu'on a repris la tradition du XVIIIe siècle avec Nover, Vestris, etc., où les danseurs avaient une importance considérable. Alors là, ça a été le triomphe de Fokine, de Nijinsky, et ensuite de Liffard, de Doline, bref, de tous ceux qui ont laissé un nom dans l'histoire de la danse. Son idée principale, parce que c'était un grand artiste et un grand créateur, bien qu'il n'ait jamais lui-même ni composé de musique, ni fait de peinture, mais il créait par personne interposée. Et il voulait que l'Occident connût l'art russe, c'était ça sa première idée, et non pas de créer des ballets. Mais comme les peintres en Russie étaient des scénographes et des animateurs de ballet, il est venu au ballet par les peintres et par la peinture, ce qui est un cheminement très particulier, n'est-ce pas ?
Le chef d'orchestre et compositeur Igor Markevitch, que Serge Diaghilev découvrit quand il avait 16 ans.
En réalité, il faudrait parler de la passion selon Diaghilev. Quelle épopée extraordinaire! On en parlera longtemps. Cet homme qui n'était pas créateur et qui pourtant a été indispensable pour que pendant plus de 20 ans, des créateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un fait si singulier, si unique dans l'histoire, à moins qu'on évoque certains monarques qui ont une très grande influence sur leur époque, qui ont influencé les styles, qui ont influencé des hommes. De même qu'on dit le Louis XIV ou le Pierre le Grand, on pourrait peut-être un jour dire l'époque Diaghilev, parce qu'il a été vraiment à la source de tout un style et de toute une manière d'œuvrer. Moi, personnellement, je pense que Diaghilev avait une qualité qui remplaçait le don de créer, c'est d'être une espèce d'agent provocateur, de même qu'il y a des provocateurs extraordinaires parmi les espions, parmi les diplomates. Il était un provocateur du génie. Il suscitait chez les gens l'envie de donner quelque chose d'extraordinaire et même de découvrir en eux-mêmes des possibilités qu'eux-mêmes ignoraient avant de faire sa connaissance. Il stimulait en vous de telles possibilités qu'on pourrait faire une histoire de Diaghilev uniquement sur cette influence qu'il exerçait et qui fait que, par exemple, avant de confier le prélude à l'après-midi d'un faune, dont on a fait l'après-midi d'un faune comme ballet, à Nijinsky pour en faire la chorégraphie, Nijinsky qui n'avait encore fait aucune chorégraphie dans sa vie, il l'emmène en Grèce pour voir des bas-reliefs, pour voir des vases avec des peintures montrant des personnages de profil, parce que, comme vous savez, la grande idée de l'après-midi d'un faune était de présenter toute la danse de profil, et on avait même imaginé à certains moments d'avoir la scène au milieu de la salle avec du public des deux côtés.
Génial de la part de Diaghilev, c'était justement de voir ce qui allait l'un avec l'autre. Enfin, généralement,
qui allait, mais qui en fait, au premier regard, pouvait ne pas aller. C'est ça justement. Peut-être son génie était d'avoir mis, par exemple, pour le Sacre du Printemps, Rurik, qui était un merveilleux peintre, mais un peintre un peu traditionnel, par rapport à une musique qui, elle, était toute nouvelle. Et en fait, je crois que ça fonctionnait, comme on dit maintenant, très très bien.
Oui. Ça fonctionnait très bien. Parce que, alors, Stravinsky a inventé une musique extraordinaire, bien sûr, mais paraît-il, moi, en 1913, date de ma naissance, je n'étais pas au Théâtre des Champs-Élysées, bien entendu. Mais que ce qui a surtout scandalisé le public, c'est la chorégraphie de Nijinsky, qui avait, pour évoquer les anciens Slaves, fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il demandait que les danseurs marchent comme des canards, les pieds, au lieu d'avoir le fameux en dehors, n'est-ce pas, d'avoir les pieds réunis comme les canards.
Valentine Hugo, qui nous a laissé des souvenirs picturaux importants de cette période, a assisté à la première du Sacre du Printemps.
Tout ce qu'on a écrit sur la bataille du Sacre du Printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des ululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups. Les mots semblent bénins lorsqu'on évoque une telle soirée. Le calme reparaissait un peu quand on donnait soudain la lumière dans la salle. Je m'amusais beaucoup, vous savez, voir certaines loges vindicatives et tonitruantes dans l'obscurité s'apaiser aussitôt dans la clarté.
Bien entendu.
Je ne cacherai pas que notre calme rivière était devenue un torrent tumultueux. On y voyait entre autres Maurice Delage, rouge, grenat d'indignation, vraiment grenat d'indignation. Maurice Ravel, combatif comme un petit coq furieux, Léon-Paul Fargue vociférant des épithètes vengeresses vers les loges sifflantes. Je me demande comment cette œuvre si difficile pour 1913 put être jouée et dansée jusqu'au bout dans un tel vacarme. On a tout raconté, vous le savez, sur ce sujet. Oh, oui. Les danseurs n'entendant plus la musique, Nijinsky très pâle criant les temps des coulisses, Diaghilev donnant des ordres de sa loge, les horions donnés et reçus. Quant à moi, je ne perdis rien du spectacle qui se passait autant dans la salle que sur la scène. Debout entre les loges centrales, je me sentais très à l'aise au milieu de la tempête et j'applaudissais avec mes amis.
À 2h du matin, Stravinsky, Nijinsky, Diaghilev et moi, nous nous empilâmes dans un fiacre et nous nous fîmes conduire au bois de Boulogne. On gardait le silence. La nuit était fraîche et bonne. À une odeur d'acacia, nous reconnûmes les premiers arbres. Arrivés au lac, Diaghilev, matelassé d'opossum, se mit à marmotter en russe. Je sentais Stravinsky et Nijinsky attentifs, et comme le cocher allumait sa lanterne, je vis des larmes sur la figure de l'impresario. Il marmottait toujours, lentement, infatigablement. « Qu'est-ce ? » demandai-je. « Du Pushkin. » Il y eut un long silence, puis Diaghilev bredouilla encore une courte phrase, et l'émotion de mes deux voisins me parut si vive que je ne résistais pas à l'interrompre pour en connaître la cause. « C'est difficile à traduire, » dit Stravinsky, « difficile en vérité, trop russe. » Trop russe. C'est à peu près « Veux-tu faire un tour aux îles ?» Oui, c'est cela. C'est très russe parce que, comprends-tu, chez nous, on va aux îles comme nous allons au bois de Boulogne ce soir. Et c'est en allant aux îles que nous avons imaginé le sacre du printemps. Pour la première fois, on faisait allusion au scandale. Nous revînmes à l'aube. Vous n'imaginez pas la douceur et la nostalgie de ces hommes. Et quoi que Diaghilev ait pu faire dans la suite, je n'oublierai jamais, dans ce fiacre, sa grosse figure mouillée, récitant du Pushkin au bois de Boulogne.
Benoît Dutertre, vous êtes le cadet de ceux qui participent à cette émission d'hommage à Diaghilev. Au fond, qu'est-ce que ça vous évoque, cette période où les arts étaient un peu en osmose, où il y avait un homme qui s'appelait Diaghilev et qui a mis en rapport des grands peintres, des grands musiciens et de grands écrivains?
Oh, les ballets russes, ça évoque surtout le moment où la musique moderne, vraiment à Paris, devient quelque chose de très important et de très identifiable.
Ça a été surtout le sacre, en fait. Hein,
pas seulement le sacre, c'est toutes les années 1912-1913 avec une série de créations absolument incroyables, puisqu'on a à peu près à la suite le chef-d'œuvre symphonique de Ravel, le ballet Daphnis et Chloé, qui est créé en 1912. Mmh. Et il y avait déjà Petrouchka l'année d'avant. Et puis il y a encore en 1913 Jeu de Debussy, qui est à peu près la partition d'orchestre la plus moderne, la plus originale peut-être de Debussy, même si c'est pas forcément la plus importante. Je veux dire, bon, là, voilà trois compositeurs qui se retrouvent ensemble dans les ballets russes. Oui, pour moi, Diaghilev, c'est le personnage qui, effectivement, à l'intuition, quand il arrive à Paris, pas immédiatement, mais au bout de 2 ou 3 ans, de rassembler à peu près ce la crème quoi, de la musique moderne. Mmh. Et c'est le moment donc où Paris, de façon très évidente, devient le lieu où ça se passe dans la création musicale. crois qu'il y a, bon, il y a deux, d'abord, il ne faut pas confondre, il y a deux grandes périodes musicales dans les ballets russes. Il y a la première période qui est effectivement 1912-1913, donc c'est une première génération de musiciens. Ce sont les pères fondateurs, vous voyez, de la musique du XXe siècle, Debussy qui est le plus âgé, Ravel qui est un petit peu plus jeune, et Stravinsky qui est encore un petit peu plus jeune. Enfin, c'est vraiment la génération des premiers grands maîtres. Il faut quand même dire que c'est pas seulement Diaghilev, c'est un moment de la création musicale tout à fait extraordinaire, parce que au même moment on trouve aussi Roussel en 1912 qui donne son ballet Le Festin de l'Araignée ailleurs, au Théâtre des Arts à Paris, qui est dirigé par Rouchet, et donc Diaghilev n'a rien à voir là-dedans. Et alors il y a une deuxième période qui est tout de même presque 10 ans, qui est 10 ans après, qui est dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, où effectivement Diaghilev va savoir je dirais peut-être notamment quand même un peu aussi sous l'influence de Cocteau, ouais. Découvrir une deuxième...
Cocteau est au départ quand même, parce que dès les années 15 ou 17, il amène Reinald Dohan.
Absolument. Ouais. Mais quand même, il y a un deuxième moment fort où Diaghilev donne dans les ballets russes vraiment... Effectivement, toute la très jeune génération, là c'est des compositeurs qui sont nés entre 1890 et 1900, et on a effectivement des créations de Darius Milhaud, le ballet Salade, on a Les Fâcheux de Georges Auric, on a Les Biches de Poulenc, et c'est toute une nouvelle génération qui est lancée par les ballets russes, qui est aussi évidemment très 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 importante. Ce qui est intéressant d'ailleurs,
c'est très importante, mais elle nous paraît quand même historiquement maintenant... largement moins importante. Non,
on peut dire que c'est pas tout à fait du même niveau que les grandes œuvres de effectivement de Stravinsky ou de Debussy.
Ou de Debussy.
Bien sûr, c'est de la musique. Enfin, encore que Les Biches, c'est quand même un très beau ballet. Mmh. Encore que Salade de Milhaud, qui malheureusement n'existe pas du tout en disque, a jamais été remonté et enregistré, c'est quand même aussi de la très belle musique.
Les Matelots, Les Fâcheux d'Auric, disons que c'est un tout petit peu rester dans notre oubli. Hein,
oui, oui, dire. Je suis d'accord.
Si on peut rester dans l'oubli.
De toute façon, on peut dire que Diaghilev se signale par son intuition assez souvent. Il se signale aussi par pas un certain aveuglement, mais tout de même, il est passé à côté de compositeurs importants. Par exemple, il a donné Daphnis et Chloé de Ravel en 1912. Bon, ça, c'est extraordinaire, mais ça ne s'est pas très bien passé entre eux. Déjà, à ce moment-là, il y avait une mauvaise entente entre Diaghilev et Ravel.
Il était déçu, ce qui nous paraît
par ce chef-d'œuvre extraordinaire. Et le pire de ça, c'est que par la suite, il y aura la valse qui également qui va créer une véritable rupture entre les deux hommes. Il est passé, on peut dire, quand même à côté de Ravel, même s'il n'est pas passé à côté de Stravinsky. Et puis, on peut dire quand même qu'avec Prokofiev, ça n'a pas été non plus la réussite.
Il le faisait beaucoup retravailler. Igor Markevitch raconte qu'il était ulcéré, lui, jeune homme de 16 ans, de voir Diaghilev dire à Prokofiev qu'il y jouait un de ses ballets au piano, de lui dire non, ça c'est mauvais, recommencez.
Absolument. Qu'est-ce qui se passe avec les ballets russes? C'est que tout d'un coup, effectivement, entre 1910 et 1920, les créations majeures de la musique contemporaine, ou au moins d'une partie de la musique contemporaine, donc tout ce qui se passe à Paris, ou entre la France et la Russie, toutes ces créations majeures sont des ballets. Et ça, c'est une chose très importante, parce que le 19e siècle, le siècle romantique, a été quand même dominé par l'art de la symphonie, hein, la tradition allemande de la symphonie, etc. C'est là que se sont produits les grands événements musicaux, on peut dire. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, et c'est un phénomène, c'est intéressant, qui commence simultanément en France et en Russie, c'est-à-dire des deux côtés de l'Allemagne, mais pas en Allemagne. Il se passe autre chose à la fin du 19e siècle, c'est tout d'un coup... un goût des compositeurs pour le ballet, dans lequel ils trouvent peut-être une forme plus libre, et puis autre chose que le discours, justement, le discours romantique, presque métaphysique de la symphonie. Là, il y a toute une recherche qui est plutôt de l'ordre de la couleur, du rythme, etc., qui fait que dans le dernier tiers du 19e siècle, il y a en France Léo Delibes, il y a André Messager, il y a Édouard Lalot, surtout avec Namouna, qui est un véritable... chef-d'œuvre de l'art du ballet, qui a beaucoup impressionné Debussy. Et puis il y a simultanément Tchaïkovski en Russie, Tchaïkovski qui lui va influencer beaucoup Stravinsky, qui tous donnent des ballets qui comptent parmi les chefs-d'œuvre symphoniques de l'époque. Et je crois que ce qui est formidable, donc avec les ballets russes, c'est que tout d'un coup, effectivement, on s'aperçoit que le ballet est devenu le grand art musical. On pourrait même dire, bien que ce soit des spectacles, enfin une forme de spectacle total avec la danse, la musique, les décors. Malgré tout, ce sont des partitions qui existent à part entière, mais qui ont été pensées effectivement à l'origine pour la danse. Et ça, je crois que c'est une rupture très importante entre le 19e siècle et le 20e siècle qui est marquée par le succès des ballets russes. Et toute la tradition parisienne, il y a comme un rapprochement de la France et de la Russie, je dirais, contre le romantisme, contre une certaine esthétique germanique, etc., qui arrive donc à son point culminant vers 1912-1913 et qui continue encore avec la jeune génération, effectivement, des Horik, des Poulenc, ou encore les œuvres du jeune Chostakovitch et du jeune Prokofiev. Après, effectivement, la Russie va évoluer à nouveau vers la symphonie avec Chostakovitch et elle va revenir d'une certaine façon à la tradition romantique quand Chostakovitch va vieillir. Mais là, il y a vraiment un moment où tout se passe autour du ballet, et c'est ça que je trouve tout à fait extraordinaire.
Parce que le ballet se perd aussi beaucoup en France, après les musiciens qui suivent, Messiaen, ou... il y a bien un ballet de Dutilleux, mais enfin...
Il y aura quand même encore, à mon avis, il y a quelques suites au ballet russe, il y aura quand même, dans l'immédiate après-guerre, l'époque Roland Petit,
oui,
qui va effectivement commander un certain nombre de ballets à Dutilleux, à Marius Constant, et essayer de retrouver l'esprit des ballets russes. D'ailleurs, je crois que c'était aussi au Théâtre des Champs-Élysées, si je ne me trompe pas.
Puis c'était lié à Boris Kokhno, qui était le secrétaire de Diaghilev et qui s'est occupé évidemment de la compagnie de Roland Petit. Donc il y avait ce lien aussi. Oui.
Mais moi, je vois aussi une autre suite, si vous voulez. C'est que le ballet, c'est d'une part la rupture avec la symphonie, et je dirais c'est peut-être aussi la rupture avec la conception wagnérienne du spectacle total. C'est-à-dire que Wagner a donc développé, à la fin du 19e siècle, une conception du spectacle total qui est quand même autour du spectacle lyrique et qui va évidemment marquer tous les musiciens du monde. Mais le ballet, justement, c'est au fond une rupture avec cette tradition lyrique et la conception d'un spectacle total qui procède plutôt par juxtaposition, juxtaposition d'un spectacle dansé, de toiles peintes qui sont commandées à des artistes très importants et de musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, par exemple, je pense aux États-Unis dans les années 70, au spectacle, par exemple, de Philip Glass, quand il donne son opéra Einstein on the Beach, qui est une des grandes œuvres de l'avant-garde dite répétitive. Là, on est finalement plus proche de l'esprit des ballets russes que de la tradition wagnérienne de l'opéra. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une chorégraphe, Lucinda Childs, il y a un compositeur, Philip Glass, il y a un metteur en scène, Bob Wilson, il y a des très belles toiles peintes commandées à un artiste américain contemporain. Et je crois que là aussi, c'est une forme de suite de l'esprit des ballets russes.
Marcel Schneider.
Fallait trouver de la nouveauté à tout prix parce que lui-même, sans être un créateur, enfin, il était créateur par personne interposée. Il avait fait des études musicales, des études de peinture, mais bon. Et ce qu'il voulait, c'est justement trouver des artistes ou bien des peintres ou des musiciens avant que le grand public ne les connaisse. Il voulait être détecteur de nouveaux talents, n'est-ce pas? Et ça a réussi quelquefois il a échoué, parce que, Rieti n'est pas un grand musicien.
Ou Dukelski,
ou certains autres, n'est-ce pas? Mais, dans l'ensemble, il a réussi. Voilà ce qu'on peut dire. Et alors, ce désir d'être le premier, de découvrir, ça allait avec son tempérament, parce que c'était un homme tout à fait hors norme, n'est-ce pas? Grand aristocrate, on prétendait qu'il descendait par la main gauche de Pierre le Grand, mais en tout cas il en avait la taille et l'énormité, parce qu'il avait une énorme tête. Il était obligé de faire ses chapeaux à Londres spécialement pour lui, autrement on ne pouvait pas en trouver, n'est-ce pas? Il était hors norme, hors série, une espèce de monstre, oui. Au sens...
Il a dit de lui-même qu'il était même une sorte de clown, ce qui peut paraître un peu surprenant.
Oui,
il
mais je veux dire, enfin, monstre au sens latin du terme, quelqu'un qui est en dehors de l'humanité. Et il l'était pour tout. Il pouvait être insupportable, très tyrannique, très sentimental aussi, à la manière russe. Il pleurait facilement, il s'apitoyait, mais il pouvait aussi bien vider les danseurs ou les danseuses du jour au lendemain quand ça ne lui convenait pas. Un autocrate, Catherine II, ou bien Ivan le Terrible, si vous voulez.
De 1912, je nous vois à place de la Concorde. Diaghilev rentre après le spectacle, la mâchoire en désordre, l'œil humide comme l'huître portugaise, le chapeau minuscule juché sur son chef énorme. En avant, Nijinsky boude, son smoking déformé par les muscles. J'étais à l'âge absurde où l'on se croit poète et je sentais chez Diaghilev une résistance polie. Je l'interrogeais. « Étonne-moi, » me répondit-il. « J'attendrai que tu m'étonnes. » Cette phrase me sauva d'une carrière de brio. Je devinais vite qu'on n'étonne pas Diaghilev en 15 jours. De cette minute, je décidai de mourir et de revivre. Le travail fut long et atroce. Cette rupture avec la frivolité d'âme, ignoble, surtout si elle se cache sous la tristesse, je la dois, comme tant d'autres, à cet ogre, à ce monstre sacré, au désir d'étonner ce prince russe qui ne supportait de vivre que pour susciter des merveilles. Jean Cocteau, 1939.
Des moments dans le destin de Diaghilev où on préférerait qu'il approfondisse plutôt que de manifester ce besoin de changement à tout prix qui l'amenait quelquefois, pour changer à tout prix, de prendre des choses peut-être qui n'étaient pas d'une valeur égale à son niveau habituel. Parce qu'il y a aussi des choses inférieures. Il faut que nous soyons objectifs aujourd'hui. Il ne faut pas que nous jugeons Diaghilev comme quelqu'un d'infaillible. Et pour cette raison, je pense que nous ne devons jamais oublier qu'il y avait chez lui quand même un certain côté capricieux qui l'entraînait à vouloir toujours se renouveler et peut-être à un certain moment de sa vie à le faire par un espèce de besoin de paraître jeune à tout prix. On peut très bien concevoir qu'un homme vieillissant ait besoin de se renouveler simplement pour montrer qu'il le fait. Et je pense que ça a été un petit peu le cas de Diaghilev à certains moments. Néanmoins, c'est remarquable de voir comme jusqu'à la fin de son existence, il a quand même fait des réussites et apporté des éléments tout à fait nouveaux. Quand, par exemple, il a décidé de faire le pas d'acier avec Prokofiev, jamais encore on avait utilisé le machinisme en ballet. Et voilà, nous nous trouvons tout d'un coup transportés dans une usine avec des moteurs, avec des mécaniques qui tournent. Et ça, c'était dû au constructiviste Yakoulov. On commence seulement maintenant à s'intéresser aux constructivistes russes. Or, ils ont apporté quand même quelque chose d'extraordinaire dans le XXe siècle. Or, n'oublions pas que Diaghilev, très tôt, je crois que c'était 24, le pas d'acier, a déjà eu l'idée de faire un ballet mécanique avec la musique de Prokofiev, qui ne me paraît pas une des plus significatives de Prokofiev, mais qui me paraît en tout cas une des plus significatives du constructivisme et du machinisme en musique.
Je suis arrivé à mes 17 ans de Russie car j'ai entendu cette formation extraordinaire de la danse. J'ai été amoureux de cet art et avec mille difficultés, j'ai quitté mon pays et j'ai rejoint le ballet russe le 13 janvier 1923. Et alors, Diaghilev m'a fait une impression d'un empereur, d'un boyard, d'un seigneur tout à fait de l'autre monde, parce que j'ai pris l'habitude déjà de la Russie en révolution. Donc j'étais très intimidé, et bientôt, une semaine plus tard, il nous a descendu à Monte Carlo, il vient lui-même, et en présence de Madame Nijinska, qui était son chorégraphe, il a fait l'examen de ces 100 garçons qui sont arrivés de Russie. Naturellement, nous étions sans aucune préparation, sans aucune prétention, ce qu'on appelle les figurants. Et alors, les fureurs de Diaghilev, de voir cette jeunesse qui est arrivée de Russie, à qui on a dit que ce sont des merveilles de ce monde, en me regardant, et avec une sorte de pitié, il dit, j'égare ce jeune homme, il sera danseur.
Henri Sauguet.
Il était très impressionnant, j'étais extrêmement impressionné. D'abord, parce que pour moi, il représentait toute la musique. C'était l'homme qui avait révélé Debussy par les ballets, Ravel, qui avait révélé Parade, qui représentait par conséquent l'évolution de la jeune musique. Je savais qu'il avait commandé un ballet à Auric et à Poulenc. Évidemment, j'étais beaucoup plus jeune qu'eux et beaucoup plus frais à Paris. Je venais d'arriver de Bordeaux depuis 2 ans. Donc j'étais dans un grand état d'accueil. Et c'est quelques jours après, à l'hôtel Meurice, où habitait à ce moment-là Madame Certes, qui était une des grandes inspiratrices, une des grandes égéries des ballets russes, que je vins avec ma partition de ballet que j'avais commencé pour le jouer sur le piano de Madame Certes dans une chambre de l'hôtel Meurice. Diaghilev se trouvait là. Il y avait alors à ce moment-là un de ses danseurs, je ne me rappelle plus lequel c'était, c'est peut-être Dolin, mais je ne suis pas sûr. Et puis je jouais donc quelques pages de cette partition, bien. Et puis la chose ne se fit pas. Et par contre, on commanda quelques années après un ballet à Jean-Jacques qui s'appelait Les Matelots. Donc pour mon barrel, Malassiane, c'était fichu. Et je pensais que tout était tombé par terre, que Diaghilev ne s'intéressait plus à moi, d'autant plus que j'avais fait la gaffe de collaborer aux soirées de Paris d'Étienne de Beaumont, qui était la concurrence directe. Il avait interdit à Henri Capoulenc de collaborer avec le comte de Beaumont et de Massine, et j'avais eu cette gaffe, évidemment, ça m'avait fermé la porte des balayeuses, pas pour longtemps, parce qu'un peu plus tard, désormais étant devenu le chef d'orchestre des ballets russes, mon sermé étant pris par d'autres fonctions, il parla de moi de nouveau à Diaghilev. Diaghilev, oui, le petit Sauguet, voilà. Toujours est-il qu'un jour, Boris Cournot vint me voir et me proposa d'écrire pour Diaghilev un ballet qui s'appelait La Chatte. Et là, ça s'est fait. Alors là, je suis donc parti pour Monte Carlo écrire ce ballet, car Diaghilev traitait ses compositeurs avec un grand faste. Il me logea à Monte Carlo. J'eus un voyage en première classe payé, aller-retour, bien sûr. Nous étions traités. Il m'appelait maître, même. C'était cocasse. Et enfin, c'était une promotion considérable. Vous savez, pour un jeune compositeur, j'avais 25 ans, être joué au ballet russe, c'était quelque chose, une véritable consécration, une promotion. C'était comme si j'avais reçu la Légion d'honneur et plus que ça encore. C'était personne luxueux et pauvre en même temps, car il n'avait pas d'argent. Il avait des saisons très difficiles, car enfin, les ballets russes, il n'y avait pas toujours une foule. J'ai vu des salles où il n'y avait pas beaucoup de monde. Quant au ballet suédois, il y avait quelquefois personne dans la salle. Mais j'avais toujours les places que je voulais pour quand je voulais aller au ballet russe. Et avant même de travailler pour Diaghilev, il y avait des places spéciales pour les artistes. C'est un petit billet qu'on allait retirer et qui vous donnait des places à 5 francs. Je me suis trouvé avec Gide, avec Cocteau, dans les places à 5 francs, n'est-ce pas, que nous prenions à ce moment-là. Mais il y avait tout de même les gens du monde. Les premières étaient éblouissantes, mais il y avait souvent des soirées où il y avait beaucoup de loges vides, beaucoup de places vides. Puis il n'a pas eu que des réussites, il a même eu des échecs considérables. L'échec, par exemple, qu'il a eu avec le ballet qu'il avait fait pour La Belle au Bois dormant, qui a été une catastrophe, et qui a failli compromettre même la vie des ballets. Ben, plusieurs fois, les ballets ont été sur le point, vous savez. Mais il surgissait tout d'un coup quelqu'un, une personne très riche. Je me rappelle un jour, j'étais à Londres. On jouait La Chatte à ce moment-là, où il y avait un immense succès. Liffard avait un triomphe dans La Chatte. Il y avait des statues qu'il représentait même, qu'on vendait chez les gens, chez les marchands. Et un jour, nous avions un souper, après une représentation des ballets, il y avait une dame anglaise charmante, qui adorait Diaghilev, qui adorait les ballets russes. Et elle savait que la saison précédente avait été très, très, très mauvaise et qu'il avait eu des soucis. Elle lui a donné la bague qu'elle portait au doigt en lui disant « ce sera pour votre saison ». Et puis c'est comme ça. Puis Chanel a fait des choses immenses pour Diaghilev. Et puis d'autres encore. Enfin, partout, il trouvait... Quant au moment où il allait se jeter à l'eau, bon, la boue est arrivée et la bonne chose repartait.
Thank you.
le peintre Alexandre Benoît, décorateur des ballets russes. Serge de Diaghilev, essai de portrait par un ami collaborateur. Diaghilev avait lui aussi sa spécialité, le vouloir. Ce n'est qu'à partir du moment où cet athlète de la volonté se mettait à vouloir que toute affaire commençait à devenir, à prendre forme, à exister. Encore une chose curieuse, Diaghilev manquait plutôt de fantaisie, d'idées, mais il saisissait avec avidité les idées des autres, qui lui paraissaient contenir des éléments de vitalité, et c'est avec ardeur et ivresse qu'il se mettait à leur réalisation. Parfois, on s'épuisait pour le persuader d'entreprendre telle ou telle chose. On le tentait par un nouveau projet, on essayait de le contaminer. Il restait indifférent, pris par une étrange indolence qui paraissait insurmontable. Et brusquement, les rôles étaient invertis. Le visage de Serge trahissait que la grâce l'avait touché, qu'il avait fini par être convaincu. Et immédiatement, il se mettait à extirper de ses conseillers tout ce qu'il trouvait utile pour une chose qui, dès lors, devenait la sienne. Ce puissant manieur d'homme forçait les initiateurs, les inventeurs, les inspirateurs à devenir les obéissants réalisateurs de leurs propres idées, sous sa conduite tyrannique. Jean Cocteau, 1939. La dernière image de Serge de Diaghilev n'est-elle pas étonnante? Comme Molière, ce prince du théâtre est mort dans un fauteuil de théâtre, et non pas sur scène, mais dans un fauteuil de spectateur. Nous sommes à Venise, au Lido pour être exact. Dans une chambre d'hôtel, près de la fenêtre, empaquetée d'ouates et de robes de chambre maintenues par des épingles de nourrice, une moitié de tête noire, une autre blanche, une dent posée au bord d'un sourire de très jeune crocodile, cet étrange général d'Ourakine surveille avec des jumelles de nacre son petit monde sur la plage, ses danseurs, ses danseuses, ses secrétaires. Il est jaloux. Chez lui, tout est un tumulte du cœur. Il va mourir. Il va mourir de l'amour du théâtre, dans cette ville d'amour et de théâtre. Comme Wagner, son cadavre flottera sur une gondole. Et dites-vous que ce prince du théâtre, que cet homme de faste, était pauvre. Toujours derrière la porte des palaces, l'huissier guettait sa vieille pelisse de possum. Et ce pauvre sublime avait beau chercher et trouver des mécènes, le mécène, c'était lui. Mécène, il reste. Et ceux et celles qui lui vinrent en aide lui doivent encore des fortunes.
Serge Liffard.
On a prédit à Diaghilev qu'il va mourir sur l'eau. C'est pour cela qu'il a évité tous les voyages en Amérique. Il n'a jamais voulu bouger. Même pour traverser des Douvres à Calais, c'était un drame. N'est-ce pas, Diaghilev, il mettait toujours les ceintures de sauvetage. Également, je me souviens, ce voyage de Naples, disons, à Capri, mais c'était un drame épouvantable. Justement, il a eu cette peur effroyable de mourir sur l'eau. Et voilà, dernière période, dernière année, 1929, je me suis trouvé avec lui, à Venise, à Lido, plus exactement, et il était très fatigué. D'après les consultations avec les médecins, on a consulté plusieurs médecins d'ailleurs, et on a trouvé que ce sont des douleurs du rhumatisme. Ce n'était pas du tout les rhumatismes, c'était les fièvres des typhoïdes. Et quand on a appelé au dernier moment les médecins allemands, qui étaient avec les ducs Westminster de passage à Venise, on a consulté avec ce grand savant, il a trouvé justement la grave maladie. Trop tard, la nuit même, il était temps.
Il est mort dans une île, enfin...
Dans une île, entouré de l'eau. Il était enterré, d'après son désir, à Venise, dans ce cimetière qu'il adorait toujours, ce cimetière grec, Saint-Michel. Et c'est pour cela que j'ai laissé Diaghilev être enterré à Venise, où il a voulu être enterré, et j'ai fait inscription sur les tombeaux que je vais ériger. Cette phrase, « Venise, inspiratrice éternelle de nos apaisements ».
Stravinsky, chronique de ma vie. La fin de Diaghilev n'était pas absolument inattendue pour moi. Je savais bien qu'il était diabétique, mais à un degré qui n'inspirait pas d'inquiétude, d'autant plus qu'à son âge, son organisme robuste pouvait encore longtemps combattre ce mal. Ce n'est donc pas son état physique qui pouvait me faire appréhender sa mort prochaine. Mais les derniers temps, en l'observant dans son activité habituelle, j'avais l'impression nette d'avoir devant moi un homme dont les forces morales commençaient à s'user rapidement. Et j'étais hanté par la pensée qu'il était arrivé au terme de sa vie. Voilà pourquoi sa disparition, tout en me causant une douleur aiguë du fait de la séparation définitive, ne me surprit pas par elle-même. Sur le moment, je ne pensais naturellement pas à évaluer toute l'importance qu'avait eue dans le monde des arts l'activité et l'existence même de Diaghilev. Tout entier à mon chagrin, je pleurais un ami, un frère, qu'il ne me serait plus jamais donné de revoir. Cette séparation avait remué en moi tant de sentiments, tant de souvenirs qui m'étaient chers. Aujourd'hui seulement, avec le recul des années, on commence à s'apercevoir partout et en tout du terrible vide qu'a laissé la disparition de cette figure immense dont l'ampleur se mesure à l'impossibilité de la remplacer. C'est que tout original est irremplaçable et cette vérité doit être acceptée. Une magnifique phrase du peintre Constantin Korovine me vient à la mémoire. « Je te remercie, dit-il un jour à Diaghilev, je te remercie de ce que tu existes. »
Serge de Diaghilev et les ballets russes, avec Jean Bazaine, Benoît Dutertre et Marcel Schneider. Nous avons entendu les voix de Serge Liffard, Igor Markevitch, Valentine Hugo, Henri Sauguet et Georges Auric. Archivina, recueillie par Martine Auger. Les textes ont été lus par Jean Bollery. Équipe de réalisation, Pascal Bénard et Viviane Noël. Une émission de Christian Giudicelli.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pairs, deux auteurs à l'écriture sombre, deux Américains, deux copains de beuverie, William Faulkner et Dashiell Hammett. Mais dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de science.